Bonsoir, bonsoir à tous. Alors merci d'être présents pour cette première rencontre du cycle Le pouvoir des mots. Voilà, cycle en 7 dates qui vont s'écouler comme ça jusqu'au mois de novembre, avec des rencontres autour du ce qu'on a appelé stand-up, mais même si les comédiennes de ce soir, je vous le présenterai un peu plus tard, font de la scène de façon large, des conteurs, des chercheurs, enfin vraiment un cycle très éclectique. Et donc ce soir, c'est la toute première. Et je remercie Jessie Varin qui nous a fait la gentillesse de venir, qui est la directrice artistique de la Nouvelle Scène. Nouvelle Scène, voilà, qui ce soir produit le spectacle. Alors, dans l'ordre, ce soir, c'est la première masterclass de Claire Assali et Lisa Visnia, qui toutes les deux ont fondé en 2017 la compagnie Les Hautes Lumières. Et qui joue, comme pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, tous les mercredis et tous les jeudis à 21h30 à la Nouvelle Scène, à quoi, un quart d'heure à pied d'ici, un magnifique endroit au pied de Notre-Dame, une superbe péniche. Donc voilà, qui joue tous les mercredis et tous les jeudis leur spectacle Sexpowerment, qui est tiré du livre de Camille Emmanuel, Sexpowerment. Le sexe libère la femme et l'homme. Donc Camille Emmanuel qui nous a fait aussi l'extrême gentillesse d'accepter de modérer cette soirée, parce que ce n'est pas un exercice facile pour elle, vu qu'elle est quand même juge et partie, puisque le point de départ, c'est son ouvrage, peut-être tu peux le montrer, puisque moi je l'ai... Voilà. Je l'ai oublié, il est à la bibliothèque. Donc Camille Emmanuel, pour vous la présenter, ensuite elle vous présentera mieux Lisa et Claire, est journaliste spécialisée dans les questions de sexualité, de culture érotique et de culture porn, de féminisme au pluriel, elle y tient. Et elle travaille, enfin tu travailles pour différents médias, dont les Un Rock, Brain Magazine et l'émission Crac Crac de Canal+. Et elle est l'auteur prolixe de 4 essais, Paris couche-toi là. Sexpowerment donc, Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite, et Sans tabou. Donc on le disait, Camille, au commencement, il y a ton livre, c'est la genèse. C'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué Claire et Lisa dans le programme. Un jour, on a lu Sexpowerment de Camille Emmanuel, et il y a un avant et un après cette lecture dans nos vies. Alors on a eu envie de monter sur scène pour dire, raconter, danser et transmettre ces mots. Donc Camille, est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de ce bouquin ? Dans quel état d'esprit tu l'as écrit ? Qu'est-ce que tu voulais transmettre ? Merci.
Bonsoir. Déjà, merci. Je voulais remercier le Centre Pompidou, BPI, de cette invitation. Merci Caroline. Et merci Jessie, je ne sais pas où elle est, qui a également fait partie de la programmation. C'est un exercice un peu particulier, en effet, parce que je suis jugée partie. Je vais interviewer Claire et Lisa sur un livre que j'ai moi-même écrit et qu'elles ont adoré, donc un peu particulier. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que vous allez apprendre des choses sur comment on adapte sur scène un essai qui n'était pas du tout écrit à la base pour être adapté par deux comédiennes. Mais moi aussi, je vais apprendre des choses puisque Lisa et Claire ont adapté ce livre. J'ai envie de dire. De leur côté, enfin, on bien sûr demandé l'accord, et puis j'étais très très enthousiaste et flattée, heureuse qu'elles adaptent ça. Mais on n'a pas travaillé ensemble sur l'adaptation. Elles ont fait, j'ai découvert en fait la première fois le spectacle quand il a été joué. Donc je vais apprendre aussi comment elles ont travaillé en fait sur ces mots et comment on peut faire ce travail-là. Pour revenir sur la question de la genèse de Sexpowerment. J'ai écrit en fait moi le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 20 ans, 19 ans, on va dire 19 ans, c'était ma première fois. Je vous raconte tout de suite, hein. on n'est pas nombreux donc on peut être intime. Et pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai compris assez tardivement qu'on m'avait raconté absolument n'importe quoi sur la sexualité, sur le corps, sur le genre, sur le désir, sur le plaisir. N'importe quoi, un peu comme tout le monde en fait. Enfin, je suis née en 1980, je regardais des films hollywoodiens et je lisais la presse féminine. Et on m'a raconté n'importe quoi sur ce qu'était un corps désirable, qui devait forcément être jeune, mince, lisse, parfait, donner les recettes pour faire plaisir à Chouchou le samedi soir. Donc on m'expliquait que c'était ça, être une femme désirable. On m'a dit n'importe quoi sur le plaisir, sur l'orgasme, comme quoi il y avait un orgasme vaginal, un orgasme clitoridien. Je faisais des tests dans Biba pour savoir si j'étais clitoridienne ou vaginale, sachant qu'il y en avait un qui était bien et un peu pourri. Hein. Enfin voilà, il fallait atteindre l'orgasme vaginal pour être une vraie femme. Donc je foirais ce test dans Biba et je me disais que j'étais pas normale. On m'a raconté aussi n'importe quoi sur, j'allais dire même le sexe, le scénario sexuel, que voilà, il y avait les préliminaires, pénétration, jouissance, plutôt masculine et féminine quand on avait gagné au grelot, et ensuite dodo. Donc voilà, il fallait suivre ce schéma-là, et moi j'ai pensé pendant des années qu'il fallait suivre ce schéma-là. Il se trouve que il y a 10 ans, j'ai commencé à écrire, à être journaliste, plutôt pour le web, sur les questions de sexualité. Et les interrogations personnelles et professionnelles se sont mélangées. J'ai interviewé des centaines de personnes de par mon travail de journaliste. Et je me suis dit, genre, OK, donc c'était vraiment nimp. Puisque quand j'interroge des gens, que ce soit des psychologues, des sexologues, des prostituées, des actrices porno, des gens de la vie de tous les jours, une meuf domina dans une soirée sadomaso, des gens qui se fouettent dans des caves dans le Bergen à Berlin... Ben non, en fait, c'est pas moi qui suis anormale, c'est juste qu'on m'a présenté une vision de la sexualité et des questions de plaisir et désir qui était un petit peu trop normée. Et du coup, ce travail de journaliste, notamment pour à l'époque, c'était beaucoup pour les Inrock ou pour Brain, je me suis dit, j'ai envie de transmettre en fait tout ce que j'ai appris et de pouvoir expliquer qu'aujourd'hui, une autre parole se libère sur les questions de sexualité, mais aussi les questions de féminisme, et qu'on peut dire, il est possible en fait d'avoir un pas de côté en fait sur ces questions-là. Je parlais aussi de féminisme, puisqu'on m'avait aussi dit nimp sur le féminisme. je viens d'une famille plutôt où c'était plutôt féministe, mais je ne me trouvais pas en accord avec les figures de féminisme qu'on présentait dans les années 90. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Aujourd'hui, moi, je trouve que les jeunes filles d'aujourd'hui ont la chance d'avoir tout un tas de figures féministes extrêmement différentes. Enfin, voilà, on peut piocher grâce... Enfin, il y a énormément de choses qui se développent, des podcasts, des comptes Instagram. Enfin, énormément de choses qui se développent autour de ces sujets-là. Et on peut trouver, en fait, son propre féminisme. Moi, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Isabelle Alonso qui était dans l'émission de Ruquier. Et voilà. Et puis voilà, bon, évidemment, Simone de Beauvoir et Simone Veil, tout ça, des grandes figures. Mais quand on a 18 ans, voilà, on ne se dit pas forcément qu'on deviendra Simone de Beauvoir. Donc, le fait d'avoir rencontré, d'un point de vue journalistique, avoir interviewé des gens qui étaient dans le féminisme sexe positif, le féminisme pro-sexe, on pourra peut-être en parler plus tard, je me suis dit, OK, il est possible en fait aussi de voir la sexualité comme un terrain d'émancipation pour les femmes et pas forcément un terrain de danger. Et il est possible d'être féministe et de porter des talons aiguilles et du rouge à lèvres et le féminisme à paillettes. Et tout est... Voilà, il n'y a pas cette dichotomie en fait entre une pensée politique et d'une part et un intérêt pour les questions de sexualité d'autre part. Pour conclure sur cette genèse, j'avais donc envie d'écrire ce livre, mais l'idée n'était pas non plus de faire un objet universitaire, puisque je ne suis pas universitaire. Et l'idée, c'est de parler aussi de l'intime. Je crois profondément que l'intime et le corps et la sexualité sont des questions politiques. Et donc, pour pouvoir en fait véhiculer ces messages-là, j'ai parlé en partie de moi, enfin de ma vision de la sexualité quand j'étais ado, etc. C'était vraiment une envie en fait de prendre le lecteur et la lectrice par la main et lui dire on est pareil en fait, je ne suis pas experte, c'est pas parce que j'ai passé des années à explorer ces sujets-là que je connais mieux en fait ces sujets, je suis encore en exploration. Et l'idée c'était vraiment voilà de partir de paroles personnelles, parce que le personnel aussi permet tout simplement à raconter des choses personnelles, ça permet l'humour, ça permet l'autodérision, ça permet de se foutre de sa gueule, tout simplement. Et c'est important, en fait, de rajouter aussi des questions d'humour dans ces thèmes-là. Un petit exemple par rapport à ça, très court par rapport au livre, mais j'ai voulu étudier la figure de la fille facile. Qu'est-ce que c'est qu'être une fille facile? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille qui couche le premier soir? Et en quoi il y a une différence, en fait, dans la société entre... voilà, une différence de traitement en fait dans le regard qu'on a sur une fille qui va coucher rapidement et un homme qui va coucher rapidement, et le fait que c'est une figure repoussoire, la fille qui couche facilement, enfin rapidement, va être considérée très vite comme une salope, alors que l'homme pas du tout quoi. Donc voilà, je voulais étudier en fait la différence de représentation dans la société de ces figures féminines et masculines. Bon, bah, j'ai juste raconté une anecdote où en fait un mec qui après est devenu un ex, mais m'a raccompagné. On s'est rencontrés, il m'a raccompagné une première fois en moto en bas de chez moi, et j'ai pas invité chez moi. J'ai pas, alors que j'étais plutôt du genre à coucher le premier soir. Et j'ai pas ramené chez moi cette fois-ci parce que j'avais un pote mexicain qui dormait j'avais un studio, donc il dormait dans mon lit canapé lit quoi. Mais c'est vraiment un ami, enfin c'était pas un mec quoi. Bon, bref. Mais j'ai pas osé dire à ce mec genre tu peux pas monter, il y a un mexicain en haut et tout, c'est pas possible. Donc voilà, donc il est resté en bas, on s'est embrassé, il est reparti en moto. On s'est revus, machin, dîner, tout ça, c'est super. Il me re-raccompagne tout ça. Et je le fais toujours pas monter. Et là, parce que justement, enfin, juste j'avais mes règles. Et j'ai rien contre le sexe pendant les règles, mais pas une première fois, en fait. Je trouvais ça pas cool, ça pouvait attendre. Et du coup, il est reparti aussi en moto. On est restés ensemble plusieurs années. Au bout de 2-3 ans, une fois, il me dit, genre, de toute façon, je savais qu'entre nous, ça allait marcher. T'étais une fille vraiment, enfin voilà, sérieuse et amoureuse et tout ça, parce que, tu vois, tu m'as pas fait monter tout de suite chez toi, on n'a pas couché tout de suite ensemble, ça montrait, voilà, que t'étais vraiment fille bien, quoi. J'étais là, genre, non, mais juste... Il y avait Mexicain et après les Anglais qui ont débarqué, mais c'est pas rien à voir avec protéger ma pureté, mon amour, mon romantisme et tout, sinon tu serais monté direct, quoi. Mais surtout, je me suis dit qu'on serait jamais resté ensemble s'il y avait pas eu le Mexicain et les règles. Parce qu'il serait dit, j'étais une fille justement facile et un coup d'un soir et pas une femme avec qui on ferait sa vie. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire de règles pour expliquer que je trouvais ça. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, parce qu'on parle de mots aussi ce soir, c'est de pouvoir mélanger les références personnelles et les références culturelles et les références intellectuelles, de pouvoir parler de ma cellulite, des fesses de Kim Kardashian et de l'histoire en fait de la représentation artistique des fesses dans l'histoire de l'humanité. Enfin, et de Freud aussi, ouais. De pouvoir mélanger en fait le trivial et l'intellectuel, mais aussi l'intime et le politique. Voilà, j'ai un petit peu résumé le projet, mais alors là, je vais prendre ma casquette. Attention, je fais le petit geste de journaliste pour vous demander à vous, Lisa et Claire, votre parcours. Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à adapter cet essai-là? Et je répète que je ne connais pas forcément la réponse. Hein, je ne vais pas faire mal. Hein. Donc voilà, comment est né Sexperiment, le spectacle qui se joue en ce moment à la Nouvelle Scène?
Bah, en fait, moi, j'ai lu ton livre. Il m'a bouleversée. Et avec Claire, on avait déjà envie de monter sur scène ensemble et de faire du théâtre ensemble. Et on avait commencé à écrire un projet sur le bonheur. Enfin, voilà. Enfin,
Il y avait déjà beaucoup le thème de la liberté individuelle, ouais, dans ce qu'on travaillait ensemble.
Et du coup, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, il faut monter sur scène pour dire ça. Parce que j'avais jamais lu ça, on m'avait jamais parlé de ça. Toi, tu dis qu'on t'a dit nimp, mais moi, on m'a rien dit. Tu vois ? C'est carrément rien. Donc du coup, à 30 ans, j'ai lu Sexpowerment et c'était une urgence. Enfin, il fallait monter sur scène pour dire ça, mais c'était pas juste sympa. C'était, il fallait vite le faire, quoi.
J'étais aussi dans la prise de conscience de la nécessité personnelle que j'avais de m'emparer de ma propre sexualité, et que ça commençait par m'emparer de la parole sur la sexualité, parce que je venais de me rendre compte à quel point j'étais totalement empêchée d'aborder ce sujet de manière simple, de manière authentique, et qu'en fait on m'avait, moi non plus, rien dit, que c'était comme un non-lieu en fait, et j'avais pas forcément de problématique physique dans ma propre sexualité, mais ça m'appartenait pas, c'était interdit pour moi d'aller sur ce terrain-là. Et cette prise de conscience et cette décision de faire autrement et de parler de sexualité a vraiment, dans le planning de nos vies, coïncidé avec le moment où Lisa a eu ton livre dans les mains et où un jour elle m'a dit « Écoute, je crois que c'est vraiment ça, lis ça, parce que je crois que c'est ça en fait qu'on va adapter sur scène. » Et je lui ai dit « Ben oui, enfin je vais le lire, hein, mais oui, c'est ok en fait, c'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. » Et voilà. Et à partir de là, on s'est mis au travail, enfin on a continué en fait
à justement travailler. Du coup, c'est pas du tout un texte théâtral ni scénique. Comment vous avez fait pour transformer ça en fait en objet scénique?
Ça a pris du temps. On a beaucoup exploré sous plein de façons différentes, enfin plein de formes en fait. On a essayé.
On a su tout de suite que il y aurait de toute façon plusieurs formes pour transmettre ton écrit parce que déjà il est très riche. C'est ce que tu disais, mais il y a des moments plus explicatifs, plus didactiques. Il y a des moments où tu racontes des scènes de ta vie. Donc, il y avait une matière qui était déjà protéiforme et on savait que notre résultat aussi, il aurait cette dimension-là. Mais après, ça a été concrètement 2 ans de recherche à 2, à 4. On a tâtonné, on faisait des essais tout le temps. Mais si on prend ce morceau, est-ce qu'il vaut mieux le dire? Est-ce qu'il vaut mieux le jouer? Le transposer, vraiment faire de la mise en scène, typiquement la scène du dîner où tu racontes que un jour à un dîner tu t'es mise à parler de ce que tu faisais, c'était des recherches sur le plaisir prostatique. Aujourd'hui dans le spectacle c'est un texte que je prends en charge et je raconte ça comme une anecdote qui m'est vraiment arrivée, à tel point que souvent aujourd'hui on me demande si je suis comédienne ou si j'ai vraiment fait des recherches sur le plaisir prostatique. Mais à une étape de travail, on était 4 et on faisait le dîner. Ouais. On faisait un dîner.
Oui, c'est ça. Vous étiez au départ, je me souviens d'ailleurs quand on s'était rencontrés, vous étiez en train de caster en fait des acteurs, actrices.
En fait, on voulait être 4 sur scène, 4 femmes au début.
Un spectacle, un récit.
Ouais, on s'était dit que ce serait fort à 4, 4 femmes. Ensuite, on a pris un homme. C'est chelou cette phrase. On s'est dit que ce serait fort d'avoir aussi un homme. Donc on était 3 femmes et un homme. Et ça marchait toujours pas. En fait, on a vraiment cherché longtemps. Et à un moment de désespoir, on a dit qu'on savait plus comment faire. Et on s'est regardé, on s'est dit non, mais en fait, il faut qu'on monte juste toutes les deux sur scène, comme le projet de base, le désir qu'on avait de monter sur scène toutes les deux. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup cherché. Tu vois, la scène d'Annecy, quand tu étais adolescente avec le garçon qui t'a repoussée, je l'ai vraiment joué avec Joanne sur scène. Enfin, on a vraiment cherché comment raconter ça, quoi. Et...
Oui, parce qu'en fait, c'était très important qu'il y ait une dimension incarnée. On savait qu'on ne voulait pas que ça soit que du discours pendant une heure de spectacle. Il y avait des infos qu'on voulait absolument transmettre de manière claire et en s'adressant au public, mais il fallait qu'il y ait du jeu.
Ouais. Et on a fait beaucoup d'improvisation aussi.
Tu interviews dans le livre la créatrice d'un sex shop.
Ouais,
et on a fait des impros à partir de cette interview, de scènes qu'elle raconte.
De la dame qui vient demander si tout le monde a un clitoris et si elle en a un.
On a testé en fait plein de choses avant de trouver la manière, finalement aussi en simplifiant, en s'en tenant à une adaptation de ton livre tissée avec des choses de nos histoires respectives.
Oui, mais ça, c'est vrai qu'on s'est hyper inspiré finalement de ton essai. Pour raconter la raison pour laquelle on est là et pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de sexualité. Enfin, on commence le spectacle en parlant intimement de nous, comme
tu
parles intimement de toi.
Le spectacle commence par vos paroles personnelles, en fait.
Et c'est « longtemps, j'ai 3 points », comme à ta façon, dans le livre.
Si on n'est pas... Si on commence à parler juste entre nous, vous levez la main et vous dites on n'a pas compris. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on cite des exemples et tout. Parce que tu me dis. D'accord. Et du coup, la question que je me suis posée aussi quand j'ai vu la première fois l'adaptation, c'est pourquoi le choix de plutôt des sujets sur le corps et la sexualité, moins les sujets, plus sociétaux. Parce qu'il y a toute une partie aussi, moi j'espère plus le féminisme justement, la question de la prostitution et la question de la pornographie. C'est des sujets qui vous touchaient moins?
L'essence même, la raison pour laquelle on a eu besoin de monter sur scène, c'était pour parler de l'amour de soi, du rapport à son corps, comment un rapport à son corps peut permettre de se sentir plus libre, comment un rapport à sa sexualité permet de se sentir plus libre. Et donc les mots-clés, c'était liberté individuelle, amour de soi. Et du coup, en fait, on aurait bien aimé parler de plus de choses, mais ça aurait duré 3 heures, le spectacle, quoi.
Oui, il y avait des domaines en fait où on était moins pas concernés parce que mais on était moins je sais pas, ça nous touchait d'un peu moins près. Et je crois qu'on était sensible aussi à qu'est-ce qu'on peut dire qui va faire du bien à celui qui va l'entendre tout de suite par rapport à des empêchements qu'on pourrait tous partager, à des autorisations qu'on s'accorde pas, à des injonctions qui pèsent sur nous tous. Et du coup, on a cherché aussi ça.
Et le corps, on en a tous un. Enfin, du coup, on s'est dit que c'était important de partir de
tout
ça.
Tout le monde regarde du porno aussi.
Non, pas tout le monde. Non.
Non, mais en fait, voilà, c'était plus sur les sujets. Ça a été un choix par rapport à vos propres centres en fait, d'intérêt à tel moment de votre vie. En fait, c'est ça aussi.
C'est aussi parce que la prostitution, le mariage pour tous et tout ça, c'est vraiment plus politique et on avait envie de rester sur quelque chose de plus, je sais pas.
De plus intime aussi, ouais. Plus lié à notre vie, à nos expériences relationnelles.
Mais c'est aussi parce que les textes qui m'ont particulièrement bouleversée la première fois que j'ai lu, c'était quand tu dis « tout est du sexe ». Enfin, tu vois, il y avait des textes phare comme ça, hyper important. Et puis sur le rapport à son sexe, le rapport à son corps, le pouvoir des mots, nommer, dire et tout ça. C'était ça l'essentiel pour nous.
Oui, et puis il y avait aussi, je pense, l'envie de transmettre des choses qu'on avait expérimentées, voire un petit peu dépassées, sur lesquelles on s'était libéré. Et il y avait des domaines où vraiment, c'était pas notre domaine ou nos expériences. Enfin, on n'aurait pas été, je pense, hyper pertinentes.
Voilà.
Je pense que écrire les mots du sexe aujourd'hui, écrire sur ces questions-là ou les dire, c'est un exercice particulier. Je vais me poser la question et vous poser la question, mais je vais aborder là en fait la question de la difficulté aujourd'hui ou pas, notamment en tant que femme, de prendre la parole sur ces sujets, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait le même vécu par rapport à ça. Donc, petit aparté en ce qui me concerne, moi, je sais que l'écriture sur le sujet, notamment en tant que femme, ne m'a pas posé de problème. Limite, ça a été un avantage, en fait, d'être une femme d'être journaliste sur ce sujet, parce que je faisais ce que j'appelais moi, la stratégie de la jument de Troie, dans le sens où on ne me voyait pas arriver. On disait, oh, elle est marrante, la petite blonde là, qui veut faire son petit article et tout machin. Et paf, après, j'allais faire le reportage et je faisais un article ou critique si c'est des sujets un peu politiques. Ou, en tout cas, voilà. Il y avait ce côté, genre, petite meuf naïve. Enfin, je pense pas que j'étais naïve, mais en fait, les idées, enfin, les clichés en fait sexistes qu'on pouvait me renvoyer me permettaient en fait d'accéder à des terrains d'enquête journalistique que j'aurais pas eu sinon. Donc j'ai retourné le cliché à mon avantage. Après, j'avais des retours en fait, que ce soit à travers ce livre ou à travers des articles, beaucoup de commentaires de haters et tout sur Internet, mais j'en ai fait mon affaire et j'ai même transformé une fois une insulte en étendard, parce que une fois sur Twitter, il y a un mec qui m'a traité de journalope. Et en fait, c'était il y a longtemps. Et j'avais pas compris qu'en fait, c'est comme ça qu'on appelait les journalistes, quels qu'ils soient. Enfin, voilà, genre les mierdas, les journalopes, enfin bon, bref. Moi, j'ai cru que c'était une insulte spécialement sur moi, parce que j'étais journaliste, j'écrivais sur le cul, donc j'étais une journaliste salope, une journalope. Et je me suis dit, genre, c'est super comme mot. C'est vrai en plus. Enfin voilà. Enfin c'est. Je me suis dit, il est poète en fait. Donc, voilà. Et après j'ai compris qu'en fait non, tous les journalistes étaient traités de journalistes. Donc j'étais un peu vexée. Mais dans mon CV, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, alors je disais sur les trucs genre voilà, je suis journaliste, salope et tout. Donc voilà. Ça c'était plutôt les commentaires haineux et tout sont pas forcément compliqués, dans le sens où en plus c'est plutôt des commentaires qui vont me donner envie de continuer d'écrire sur le sujet. Souvent, on me dit genre, mais il n'y a pas plus grave dans le monde. Ça, c'est souvent ça, notamment quand j'écrivais dans le Nouvel Obs sur Internet. Bah, forcément, je me retrouvais à côté d'articles, à côté d'un tremblement de terre en Asie ou machin, ou le chômage qui augmentait en France, voilà. Et moi, j'avais mon petit article sur, alors, j'ai fait une soirée fétiche à Londres et tout, et qu'est-ce que j'ai appris sur l'inversion du genre dans les soirées fétiches, et je vais vous raconter que j'avais du mal à mettre ma robe en latex, enfin bon, bref. Et donc, quelqu'un commentait, genre, il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus important en ce moment sur la planète et tout. Et en fait, c'est une remarque qui souvent me... Je répondais, il ne faut pas répondre aux haters, mais là-dessus, je répondais tout de temps en temps parce que je trouve c'est intéressant. Comme en France ou même ailleurs, je pense, le sexe est vu comme un sujet de gaudriole. C'est vu comme un sujet... à partir du moment où c'est en dessous de la ceinture, on ne s'y intéresse pas, ou on en rigole, ou c'est voilà. On oublie en fait la dimension extrêmement sociétale et voilà, même politique de ce sujet. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est un sujet... ultra important. On parle de sexe, on parle de quoi ? On parle aussi de procréation, on parle aussi d'avortement. C'est un sujet politique. On parlait tout à l'heure là, dans l'éloge des règles. Bon, ben, les règles, on peut se dire, ouais, on s'en fout des règles. Non, c'est un sujet extrêmement politique. En Inde, les jeunes filles sont déscolarisées à 12 ans, puisque dès qu'elles ont leurs règles, en fait, elles vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de protection hygiénique. C'est un problème en Inde extrêmement important. Donc, et on parle de sexualité, on parle de vagin et de sang qui coule, quoi. Donc voilà, le corps est un sujet politique, le plaisir aussi est un sujet politique. C'est une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle toujours Cher Hyde, qui a écrit dans les années 70, qui a écrit sur le plaisir féminin. Une des premières dans les années 70 a montré qu'en fait qu'il y avait, le plaisir était global et clitoridien et qu'il n'y avait pas de femmes, les femmes qui ne jouissaient pas quand le mari faisait hop là dans le vagin pendant une minute, bah, elles n'étaient pas anormales, elles n'étaient pas frigides et il ne fallait pas les envoyer chez le psy en fait. Elles feraient mieux d'économiser de l'argent et juste de se caresser en fait et elles comprendraient qu'elles auraient accès à la jouissance. Et donc cette femme-là, Cher Hyde, qui a donné la parole à beaucoup de femmes dans les années 70, elle disait, et les années 80 aussi, elle disait, une femme qui se pense anormale ou frigide, puisqu'elle ne jouit pas comme la société lui dit qu'elle devrait jouir, ne deviendra jamais chef d'orchestre ou présidente de la République. Et je trouve que c'est une phrase assez forte. Elle voulait être chef d'orchestre, Cher Hyde. mais oui, c'est-à-dire que si on passe tout le début de notre vie adolescente et jeune femme, ou même de femme tout court, à se dire au quotidien, hein, enfin si on vit avec quelqu'un, c'est au quotidien, je suis pas normal, je n'ai pas accès au plaisir, ou je ne comprends pas pourquoi je ne jouis pas comme il y a écrit dans Biba que je devrais jouir, ou machin, ou comme dans les films. D'où après on va avoir l'énergie pour conquérir le monde, pour changer de job, pour demander une augmentation, pour machin. Non, c'est pas possible. Enfin, si dans son corps, dans son intimité, on a l'impression d'être bizarre, ou d'être. Enfin, bizarre à la rigueur, pourquoi pas, c'est cool d'être bizarre, mais de pas être bien comme il faut, ou de jamais réussir, parce qu'il y a ça aussi, il y a une pression sur l'orgasme, genre il faut avoir être multi-orgasmique, avoir 4 amants, avoir testé la bisexualité, parce que c'est tendance à avoir 27 sextoys. Enfin bref, si on se sent pas dans cette norme-là, on va pas explorer après, je pense, d'autres choses. Si déjà dans ce terrain-là, il n'y a pas d'assurance, en fait. C'est vraiment une question forte pour ça. Et je me suis un petit peu égarée, mais je voulais parler en fait du fait que voilà, les haters qui disaient qu'il n'y a pas plus important, j'étais là genre, alors, on va parler de ce qui est important. et ensuite, voilà, sur l'écriture de l'intimité, moi, ça ne me pose pas problème d'écrire bite, chatte ou prostate dans un texte. En plus... on m'a déjà reproché d'être vulgaire, mais je trouve que la vulgarité est une notion très subjective. Quand j'ai suivi pendant un moment la manif pour tous, je trouvais que c'était des gens extrêmement vulgaires. Pas dans leurs mots, mais c'était très chic, hein, mais dans leurs propos et dans leur violence. Et ensuite, le mot parfois un petit peu vulgaire permet aussi de mettre de l'humour et de cacher aussi parfois les choses un petit peu impudiques. Et là, je voulais revenir sur le spectacle parce qu'en fait, il y a un passage dans le spectacle de Lisa Eclair qui m'a fait rougir. Mais vraiment, enfin, j'ai même failli quitter la scène parce que de gêne en fait, alors que c'est des trucs que j'ai écrits quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un passage, c'est le seul passage dans le livre qui, on va dire, est érotique, enfin qui, parce que c'est un livre qui parle de sexe, mais qui de, là c'est un passage où c'est une scène sexuelle en fait, voilà, qui est très particulière, enfin qui est pour moi un contexte très particulier suite à un événement dramatique, extrêmement dramatique dans ma vie. J'ai failli arrêter l'écriture du livre en disant c'est complètement con. J'étais en train d'écrire un chapitre sur les poils pubiens, alors que je vivais une expérience post-traumatisante. Et du coup, j'ai failli arrêter l'écriture. Et je me suis remis après une scène, après avoir fait l'amour avec mon partenaire, en me disant... Mais bien sûr que si, je vais écrire ce chapitre sur les poils pubiens et d'autres, parce que c'est le désir de vie est là, Eros est là, et voilà, c'est important, je vais continuer. Et donc, je raconte cette scène-là, et elle joue, enfin vous le lisez à un moment donné sur scène, et tout d'un coup, entendre ces mots-là dit, j'étais extrêmement gênée, parce que quand on écrit, on a un ou une lecteur fictive. On peut rencontrer des lecteurs et des lectrices, mais on ne les voit pas, ils ne sont pas là, etc. Là, tout d'un coup, c'était mes mots, intimes et sexuels et érotiques et amoureux, qui étaient entendus par des gens, mais qui étaient juste à côté de moi dans la salle, quoi. Et du coup, il y avait quelque chose d'extrêmement troublant et intéressant, en fait, parce que l'oralité des mots... des mots érotiques, enfin des mots sexuels, transforment totalement les choses, c'est-à-dire, et là en ça je trouve ça beaucoup plus courageux de les prononcer que de les écrire, quoi. En gros, moi je suis une planquée, quoi, je suis derrière mon ordi et je suis là genre ouf. Et vous, deux soirs par semaine, vous faites ce travail-là de transmettre en fait à un public, mais en mettant votre corps, en mettant votre image en jeu. Et donc la question était un peu longue, hein. Mais je vous avais prévenu depuis le début qu'elle est. Mais la question étant, est-ce que vous avez affronté des difficultés, des choses difficiles quand vous avez commencé le spectacle, ou encore maintenant aujourd'hui, quelles sont les limites, les obstacles que vous rencontrez de dire ces mots-là?
Typiquement pour la lecture du texte, de la scène sexuelle, il a fallu justement trouver la note qui serait juste pour nous et pour ceux qui allaient entendre. Et je crois que ce qui a rendu ça possible et pas si compliqué pour nous aussi à le faire, c'est c'est pas neutre, c'est pas non plus comme si on lisait n'importe quel texte, mais c'est de pas non plus jouer quelque chose d'extrêmement sensuel en plus, ou de jouer l'émoi, en fait, d'être vraiment dans la lecture et de considérer que ça allait suffire, que les images allaient parvenir. Du coup, il n'y a pas, nous, on ne dépasse pas une certaine limite, ça reste assez simple.
Mais après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident d'assumer, de dire plein de mots sexuels sur une scène. Maintenant, ça paraît simple, mais je pense que si je me voyais le dire, je serais mal à l'aise. Tu vois, ça va que je me vois pas en fait. Mais parfois, dans des interviews, je suis là genre ah ouais, quand même, je dis ça devant les gens, quoi. Franchement, la première fois qu'on a joué, il y avait mes parents et c'était chaud d'assumer, vraiment. Et j'ai réalisé un film que j'ai montré il n'y a pas longtemps avec une scène de masturbation et tout. Et j'ai été terrorisée à l'idée de montrer ça. Enfin, c'est pas si simple, en fait, pour ma part.
Ouais. En fait, ça ne devient pas banal. Enfin, c'est jamais banal. C'est toujours engageant. Et effectivement, il y a cet endroit où, heureusement qu'on ne s'entend pas et qu'on ne se voit pas parce que peut-être on oserait moins. On a appris à le faire. Je pense aussi qu'il y a 2 ans, 3 ans, quand on avait ton livre dans les mains et qu'on découvrait, on chuchotait encore en disant certains mots, en parlant aux terrasses. On n'était pas... on revient de loin quand même.
C'est vrai que ce que je te disais, la première fois que j'ai appris un des textes qu'on joue dans le spectacle, de le dire pour la première fois, je me suis mise à pleurer. C'était trop fort, c'était tellement fort, puissant. C'était vraiment un texte qui m'aurait été nécessaire de lire bien avant et de le dire, c'était pas comme le lire. Ça m'avait totalement bouleversée, quoi. Les mots sortaient de ma bouche, mais avec tellement d'émotion, et aussi parce qu'on n'entend jamais ces mots-là dans la vie. Enfin, on parle très rarement. Enfin, en tout cas, moi, je parlais très rarement de ça avec personne, en fait. Donc, du coup, de dire ces mots, c'est d'une puissance absolue, quoi.
Oui, en fait, la parole, elle fait naître une nouvelle réalité dans le présent. Et c'est ça qui est fort. Enfin, c'est là où je pense qu'il y a... justement, on est là pour parler du pouvoir des mots, une possibilité de régénérer quelque chose au moment où on le dit, pour soi et pour ceux qui entendent. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé que c'était important que tes mots aillent sur scène, en fait. Parce que c'est là qu'il y a ce contact au présent avec les autres.
Mais ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a un peu l'air d'avoir 22 ans. Et alors que bon. Et en fait, parfois, je pense qu'il y a des gens qui se disent: mais c'est qui ces filles qui disent anulingus, plaisir prostatique, machin, sur scène? Elles ont quel âge? Mais qui sont-elles? Tu vois, c'est un peu déroutant, quoi. Parfois, on joue devant des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous. Et on est là, à l'aise, tu vois, à parler de. Enfin, voilà, à dire tous ces mots. Et je pense que c'est particulier, en fait.
La semaine dernière, j'ai discuté du spectacle avec une programmatrice et qui, en fait, était épatée qu'on ait... ça rejoint un peu ce que tu disais, mais pas du tout le physique de l'emploi, et qui trouvait...
C'est quoi le physique de l'emploi?
En fait, elle me dit... Mais je vous donnerai le bon Dieu sans confession. Enfin, vous parlez de sexualité toutes les semaines, comme ça. C'est votre associé? Ah oui, non, mais elle non plus. Elle a pas du tout le... Non, on dirait pas du tout que vous faites ça, en fait. Et elle trouvait ça chouette. Ouais. Du coup, aussi, je pense en pensant aux spectateurs possibles de son théâtre.
Elle était rassurée.
je pense qu'elle trouvait ça intéressant, justement, qu'on n'est pas, je sais pas quoi, mais qu'en tout cas, on dégage quelque chose d'extrêmement sage.
Oui, on ressemble pas à des profs de SVT, quoi, tu vois.
Ouais.
Ni à des actrices porno.
Ouais.
Donc, je sais pas pensent les gens, mais ouais. En tout cas. Elle m'a dit ça tout de suite en nous voyant, donc c'était drôle.
Oui, puis la directrice de l'Institut français de Barcelone, là où on a joué il y a 2 semaines, elle croyait qu'on était les stagiaires, tu vois. Elle pensait pas qu'on était les comédiennes du spectacle, quoi. Donc c'est marrant, en fait.
Ouais, c'est vous êtes trop innocent. Enfin, il y a un truc genre l'innocence, la pureté, elles peuvent pas.
Non, mais du coup, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant.
On reparlera après de la réception, en fait, des mots écrits et des mots dits. Pour donner peut-être un petit exemple d'adaptation, en fait, du travail d'adaptation qui a été fait, je vais lire un très court texte, promis, il est court, de mon livre, et voir ensuite comment Lisa et Claire ont adapté sur scène cette partie-là, en fait, très spécifique. Donc c'est le début d'un chapitre au début de l'ouvrage qui s'appelle « Mon clito et moi ». Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, je pense que vous aurez compris. Longtemps, j'ai cru que mon sexe, c'était un vagin et un petit machin appelé clitoris. En 2013, j'ai créé avec une amie, Alessia Bacquel, le cabinet de curiosité féminine, un site internet et des ateliers dédiés au plaisir féminin. À l'occasion d'un de ces ateliers, organisé à Paris sur le thème sexualité et empowerment, j'ai proposé à une 20aine de femmes de tous âges un petit jeu. Je leur ai donné des feuilles blanches, un crayon et leur ai demandé de dessiner un sexe féminin. Première difficulté qu'ont relevé les femmes, est-ce qu'on dessine le sexe extérieur ou intérieur, vulve ou bien vagin, that is the question. Dessiner un sexe d'homme, c'est fastoche. Graphiquement, c'est assez simple. Il suffit, en plus, de s'inspirer de tous ces gribouillis présents sur des milliers de portes de toilettes masculines. Les dessins de vulve étaient plus ou moins précis. Il manquait ça et là des éléments. Mais je ne demandais pas non plus de faire des planches anatomiques. Un dessin était particulièrement réussi. Je suis lesbienne. J'ai souvent eu l'occasion d'en observer de près, commenta en riant l'artiste. Une femme dit qu'elle avait vraiment découvert son sexe en le regardant à l'aide d'un petit miroir. Une autre, grâce à son smartphone. Un selfie de chatte, quoi. Lorsque l'on passa au dessin du sexe interne, ce fut un festival. L'une avait dessiné un très, très, très grand vagin, en oubliant son élasticité. Une autre avait supprimé le col de l'utérus, imaginez tous les godemichés qui se retrouveraient dans l'utérus. Une autre encore avait carrément mélangé vagin et urètre, bonjour les infections urinaires. En revanche, personne n'avait oublié les trompes et tout le monde avait zappé la partie interne du clitoris. Je serais mal placée pour me moquer de ces dessins ratés. J'ai eu moi-même, pendant très longtemps, une vision totalement erronée de mon corps. Et après, je continue.
Donc, qu'est-ce que...
On est d'accord pour dire que...
On est d'accord pour dire que dessiner un sexe d'homme graphiquement, c'est simple. Hein. Tout le monde sait à peu près dessiner un sexe d'homme. Oui.
Oui.
Facile. Donc, on vous propose un jeu. Ça va, la BPI? Vous êtes en forme ce soir? Ok, vous avez une minute pour dessiner un sexe de femme.
Alors, attendez avant de commencer. Hein. Trois petites choses. D'abord, on ne se fait pas aider par son voisin, pour ceux qui ont un voisin. On ne copie pas la chatte à sa voisine. Et on écrit bien son prénom en bas de la page. Prêt?
3, 2, 1, partez!
Alors,
on va ramasser un petit peu au pif. Hein. On va pas pouvoir tous les ramasser, mais merci beaucoup.
Alors,
merci.
Merci. On va vous en montrer quelques-uns.
Ouais. Alors, Aureliano nous a fait un bélier, finalement. Ouais.
Qui est un petit peu, on dirait un petit animal très mignon, celui de, pardon, vous voyez pas bien, de Anaïs, mais avec un gros trou aussi, je trouve.
Énorme trou.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Alors Gilles, qu'est-ce que c'est?
Ah bah, tu veux voir? Ah oui, il y a plus de Gilles, ouais. Moi aussi j'ai celui de Gilles.
Ouais.
Il y a du soleil.
Il y a du soleil, ouais.
Et des oiseaux.
De la chaleur.
Voilà.
Nick, c'est un peu plus technique là, hein. On sent...
C'est précis, ouais.
Ouais, plus précis.
Moi j'en ai un petit dernier, on dirait un nuage très mignon, celui de Lena. Mm. C'est assez généreux.
Ouais, c'est vrai.
Ok, bon super.
Merci
Alors,
beaucoup.
Attendez, hein, je vais vous en montrer un autre. Hop. Voilà, un dessin quand même assez complet. Enfin, je pense que là, il y a à peu près tout.
C'est quoi? Je reviens, j'ai mieux, je reviens.
D'accord, bon. Ok. Eh bien, non, mais merci d'avoir joué le jeu, bravo. Et surtout, je tiens à vous rassurer, c'est quand même normal qu'on en soit tous à ce degré de flou relatif, parce qu'il faut quand même savoir que le sexe féminin a été moins étudié que la face cachée de la Lune. Et voici une vulve.
Bonsoir. Donc,
voici donc les grandes lèvres, hein, ce qu'on appelle les petites lèvres ensuite, et ça, c'est l'entrée du vagin.
Et alors là, très important, la tête de Lisa, c'est le gland du clitoris. Et il y a 8000 terminaisons nerveuses là-dessus. Alors, je fais un petit rappel hein, sur le clitoris. C'est la seule partie du corps humain qui est uniquement dédiée au plaisir.
Uniquement.
Et qui fonctionne jusqu'à la fin de la vie.
Jusqu'à la fin. C'est important hein, de s'en souvenir. Voilà, donc ça, c'est un clitoris dans son intégralité. et à taille réelle. Impressionnant, non ? Ouais. C'est à peu près 10 fois plus gros que la plupart d'entre nous l'imaginent. Ça a la forme d'une poire et on ne peut pas le voir parce que c'est caché derrière les lèvres, mais tout ça, ça bande.
Et alors, le point G, enfin, ce qu'on appelle le point G, bah, en fait, ce n'est pas un point, c'est une zone qui est là, derrière. Là, voilà, merci. Et donc, si on touche cette zone... qui est à l'intérieur, donc, et ben, ça fait un bien fou, et peut-être même que ça fait jouir.
Ouais, et là, normalement, on s'arrête là.
On s'arrête là pour aujourd'hui.
C'était le petit extrait.
Voilà.
Si vous voulez voir la suite, vous pouvez venir nous voir à la nouvelle scène.
Demain.
Parce qu'après, on part sur une vidéo de Freud et tout, donc...
Sigmund. J'étais quand même assez impressionnée parce qu'il y avait pas mal de dessins qui reprenaient justement
le clitoris
et ouais. Tout. Et en fait, en ce moment, il se passe un truc autour de ça. En France, dans les pays occidentaux et tout, il y a de plus en plus de choses. Il y a des comptes Instagram, des... Il y a du street art, il y a des trucs où on voit fleurir en fait des clitoris un peu partout. La dernière fois, je suis allée à une conférence à Genève où ils avaient carrément gonflé un clitoris géant de 8 mètres de hauteur. Le truc était immense et tout. Et ça m'avait fait marrer parce que je m'étais quand même dit, genre, ils n'auraient pas osé faire une bite géante et clitoris. Bon, bref. Mais c'est très bien parce que du coup, concrètement, là, jusqu'à cette année... Il n'y a qu'un manuel de SVT qui le représente dans les cours d'éducation sexuelle, des manuels de SVT de 3e. L'année prochaine, en septembre, il va y en avoir 8 ou 9 en fait, de maisons d'édition en fait, qui le représentent plus ou moins correctement, mais beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est vraiment en train de bouger. Et du coup, je pense que si vous continuez encore pendant 10 ans le spectacle, à la fin, vous aurez des dessins genre parfaits, quoi, avec des gens qui auront fait des trucs super. Et un autre truc, petite remarque aussi que je me suis fait récemment, je me disais genre, c'est mon copain qui me disait, mais tu sais, avant, il y avait, donc je lui parlais des dessins de clitoris qui fleurissaient dans la rue, des affiches, etc., de street art et tout. Il me dit, mais avant, il y avait des chattes dans les toilettes aussi. Il n'y avait pas que des bites, tu dis ça dans ton livre, mais ce n'est pas vrai. Il dit, il y avait des chattes parce qu'on les représentait avec des poils. Mais à partir du moment où le poil pubien disparaît, on représente quoi ? Un trait ? C'est pas graphique un trait, quoi. Donc en fait, avant, à une époque avant, voilà, l'épilation intégrale, pour dessiner un sexe féminin quand on avait 14 ans dans les collèges et tout, ben, on dessinait en fait un pubis poilu, quoi. Mais aujourd'hui, ça ne dit plus grand chose aux ados, en fait, ce pubis poilu. Donc voilà, petite réflexion en me disant, je suis un peu nostalgique de. La période des poils pubiens des années 70.
En tout cas, par rapport à l'adaptation, pour parler de l'adaptation pure, c'est vrai que quand on a lu ce passage sur les dessins et tout ça, on s'est dit, bah, quoi de mieux que de demander au public, au théâtre, de dessiner une vulve, en fait, un sexe.
Puis,
de femme, quoi.
On a commencé par s'y essayer nous-mêmes, en fait. On s'est dit, alors nous, on en est où, en fait, en dessin de sexe féminin ? Et franchement, on avait du taf. Donc on s'est dit que si nous aussi, on en était là, ben, tous les gens aussi, enfin voilà, ça serait bon de le faire à tous ceux qui viendraient.
Donc c'est une forme théâtrale particulière, hein, mais c'est vrai qu'on a tout de suite cassé, enfin, on a tout de suite eu envie de faire participer les spectateurs. Totalement, enfin, au spectacle, quoi.
Et quels sont les retours en général qu'on vous donne après le spectacle ? Est-ce que c'est déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en plein spectacle ? C'est déjà arrivé ?
Non, il y a des gens qui veulent pas dessiner. Il y a, ouais. Y a des gens qui sont pas à l'aise et qui disent non, merci. On sent vraiment qu'ils sont pas à l'aise du tout, quoi. Mais à part ça, non, il y a jamais personne qui est parti choqué.
Ben, on a beaucoup de remerciements en fait parce que. On a aussi pris le parti dans le spectacle de dédramatiser beaucoup de choses. Enfin, déjà parce qu'on
on parle et puis d'insister sur le fait que c'est pas grave, ça non plus c'est pas grave, qu'on a en fait on a le droit d'avoir eu des expériences plus ou moins hasardeuses, on a aussi le droit aujourd'hui de décider qu'on va aller vers du mieux et qu'il suffit voilà de s'informer, d'expérimenter, d'oser.
Et puis comme le dit Ovidie, on a le droit d'avoir envie de faire l'amour comme de ne pas avoir faire l'amour du tout, de ne pas avoir envie du tout. Et c'est important pour nous aussi de dire ça parce que ça s'appelle sex power not, mais ça pourrait être angoissant d'aller voir un spectacle qui dit il faut faire l'amour, il faut faire l'amour quoi. Et donc à un moment dans le spectacle, on dit ouais bah parfois on n'a pas à avoir envie quoi. Et ça c'était hyper important.
Oui, donc ça je crois que ça détend. Il y a un côté voilà qui détend parce que du coup comme la question aussi qui obsède beaucoup de gens, c'est est-ce que je suis normale et qu'on en parle aussi de cette question-là, d'un coup il y a les gens voilà se reconnaissent en fait dans ce qu'on raconte. Du coup, il y a un merci pour ça et puis souvent il y a aussi un élan d'énergie, de l'élan pour faire de nouvelles choses, en parler en rentrant à la maison avec son partenaire ou sa partenaire,
Dans 9 mois, il y a plein de bébés sexperiment.
Probablement, très probablement. En tout cas, ouais, ça ouvre, je pense, mais comme nous, on a eu aussi plein d'envie de découvrir des choses, d'expérimenter des choses comme le booty shake, enfin plein de trucs
en parle dans le livre.
Ouais. La curiosité, l'ouverture que tu as mise en partage dans le livre, j'ai l'impression qu'elle se ressent aussi chez les spectateurs du spectacle. En fait, ils ont aussi envie de s'emparer plus de cette part de leur vie.
Ce qui est intéressant, c'est que vous le faites évoluer, le spectacle. Enfin, il y a une première version courte, ensuite la version plus aboutie. Et là, vous rajoutez des choses petit à petit. Et c'est la vraie différence avec ce truc-là qui est imprimé, voilà. Et alors, on peut toujours dire, on fait une version à jour et tout, mais non, à moins de faire un immense best-seller et tout, le livre, il est publié, quoi. Et en fait, je trouve que vous avez cette liberté, et, voilà, de pouvoir enrichir par rapport à un nouveau texte que vous avez lu et qui pourrait être... Parce que voilà, je précise qu'il n'y a pas que... Sexpowerment dans l'ouvrage, il y a aussi d'autres références, vous avez interviewé d'autres personnes, vous êtes allé voir voilà, des personnes qui étaient mentionnées, vous êtes allé voir un petit peu plus loin et tout ce qu'elle apportait. Donc vous avez cherché différentes sources et vous pouvez le faire évoluer et du coup la scène permet en fait cette souplesse et cette mobilité en fait du discours que permet pas vraiment l'écrit. Moi je sais qu'il y a des choses que absolument rien que je regrette, mais des choses que j'écrirais différemment aujourd'hui, ce livre, pour plein de raisons, parce que 4 ans sont passés, il y a aussi la question de la parentalité, qui, voilà, je suis devenue maman, et du coup, voilà, il y a des choses qui bouleversent aussi la sexualité. Et puis aussi parce que c'est des sujets qui aujourd'hui sont un tout petit peu plus visibles. Donc, je serais moins à râler dans le livre. Genre, je comprends pas, il y a vraiment rien qui parle de ça. Enfin, à un moment donné, je suis là, genre, je comprends pas, il y a pas d'émission télé qui parle de sexe. Bon, il se trouve que maintenant, je bosse pour une émission télé, crac-crac, qui parle de sexe. Donc, je peux plus râler. Mais voilà, est-ce que vous avez envie encore de faire bouger le spectacle et de rajouter des choses, ou est-ce que c'est voilà, comment ça se passe
Bah, c'est vrai qu'on se pose super souvent la question de comment être le plus au présent possible et comment pouvoir redonner toujours plus d'énergie ou de transmission ou de voilà. Donc là, on s'est dit qu'on allait rajouter un bout de ton texte bientôt, mais il y a des choses qu'on avait écrites qu'on a réécrites. Après, on peut pas tout le temps changer. Enfin. Et puis, on ne fait pas d'improvisation dans le spectacle. C'est écrit, mais moi, je suis toujours hyper tentée de rebosser pour que ce soit toujours le plus... Ouais, le mieux, quoi.
Oui, moi, c'est assez nouveau, ça, pour moi, de pouvoir retoucher un spectacle dans lequel je joue au fil des représentations. J'avais pas trop... Enfin, je venais pas trop de cette école-là. Et je pense que ça me faisait même un peu peur au début. Et surtout, vu le temps qu'on a mis à trouver une forme aussi qui nous convenait, j'avais peur de remettre en question quelque chose qui fonctionnait pas trop mal. Et finalement, je trouve ça intéressant et pertinent, surtout parce qu'on joue le spectacle depuis fin septembre. Et du coup, en fait, ça paraît, c'est naturel qu'il y ait des subtilités qui s'imposent, des enrichissements, des sensations qu'on a à force de le jouer, qui manifestent en fait la nécessité d'aménager une petite transition ou de rajouter quelque chose. Donc, je trouve ça assez chouette, finalement, de s'autoriser ça. Et effectivement, on réécrit pas non plus le spectacle tous les mois. Enfin, il y a quand même des choses, voilà, qui sont stables et qui sont belles à nos yeux et qui passent bien. Donc, je sais plus ce que tu m'as demandé, mais
c'est ça. Quel est le retour du public, enfin, de spectateurs ou spectatrices? Parce que voilà, on parle pas mal depuis le début de plaisir féminin, sexualité féminine, mais c'est assez équilibré en fait. Enfin, peut-être 70-30.
Ah, tu veux dire le public? Bah, oui. Il y a plus de femmes que d'hommes.
Ouais. Et le retour, un retour qui vous a marqué particulièrement de quelqu'un qui est venu vous. Est-ce que les gens viennent vous voir après d'ailleurs?
Ça dépend des fois, mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est utilité publique. Genre, il y a plein de gens qui nous disent c'est un spectacle d'utilité publique. Et ça, c'est vrai que c'est hyper fort, quoi. C'est parce qu'on... Enfin, on ne s'attendait pas forcément à ça. Après, non, le plus beau, c'est des jeunes filles qui disent bah, j'ai envie que ma vie, elle change. Voilà, c'est fort.
Vous devriez tourner dans les lycées.
On a joué devant des lycéens, c'était hyper fort. Moi, j'étais bouleversée, je crois, parce que j'aurais tellement eu besoin de voir ça à leur âge. On avait hyper peur qu'ils soient hyper agités, qu'ils se moquent, d'entendre des mots sur la sexualité. Et en fait, mais ils n'ont pas bougé, ils étaient à l'écoute totale. Et c'était vraiment fort. Ouais. C'est vrai qu'on aimerait bien jouer devant plus de jeunes.
Oui, bah d'ailleurs, on a pris le parti de leur dédier la représentation et en leur expliquant qu'en fait, on a aussi écrit ce spectacle pour les adolescentes qu'on a été, en fait, et qui auraient eu besoin de le voir avant de plonger dans une vie sexuelle active. Du coup, il y avait beaucoup d'émotions. Je pense qu'on était très connectés.
Tous les mots, tout ce qu'on disait prenait son sens en 8000, mais en même temps parfois quand on joue devant des grand-mères aussi, quoi. Donc tu vois, enfin, c'est ce que tu dis dans le livre, qu'il y a des femmes de 70 ans qui savent pas qu'elles peuvent avoir un orgasme, quoi. Mmh. Qui pensent qu'elles peuvent pas, qui savent pas si elles ont un clitoris ou donc
ou qui le découvrent après un décès de leur mari, en fait. Enfin, ouais. C'est terrible, hein, mais voilà. C'est marrant que tu parles de VDM parce que moi, j'ai pas de retour direct de lecteur ou lectrice, enfin des mails, etc. Mais au bout de le livre venait de sortir en librairie depuis 6 mois, j'ai reçu un courrier, ce qui arrive plus jamais en fait. On reçoit plus de courrier maintenant. Enfin voilà. Et transmis par mon éditeur. Et en fait, je l'ai gardé ce truc parce que j'en ai pleuré. Hein. Mais c'était en fait, c'est très drôle parce que c'était un courrier de 4 pages. Et les premières pages, donc je comprends que c'est un homme et qui dit, genre voilà, j'ai lu votre livre, vraiment, je trouvais ça très intéressant. Et je comprends qu'il est, c'est un homme plutôt cultivé, son style de phrase, etc. Voilà, il me dit, ça me fait penser à tel texte, voilà, de Nice Nin que j'ai lu, nanana. Puis après, il enchaîne sa lettre en disant, c'est, je vous écris ça, mais je sais que ce livre m'était pas du tout adressé à la base, je suis pas dans, voilà, le lectorat type et tout, voilà, j'ai 87 ans. Je vis en maison de retraite et j'ai lu votre livre et j'ai vraiment bien aimé, surtout la page 57. Alors, j'étais là, genre, page 57, le fameux plaisir prostatique. J'étais là, genre... Et après, il m'explique, il dit, bah voilà, moi, j'ai plus d'érection depuis un moment, enfin, voilà. Mais j'ai pas envie de prendre de médicaments et par contre, j'ai découvert ça et c'est vraiment fabuleux. Et du coup... Et il m'expliquait aussi qu'il avait une amoureuse qui avait 80 ans. Et ils vivaient une grande histoire d'amour dans cette maison de retraite et qu'il l'avait fait jouir pour la première fois. Il avait fait découvrir son clitoris avec un cunnilingus et elle avait eu son premier orgasme à 80 ans. Et que c'était super et qu'ils avaient encore plein de choses à explorer et qu'ils ne faisaient pas des galipettes parce que voilà, quand même, il y avait l'arthrite et tout. Mais, et il me raconte tout ça dans ses lettres, mais de façon très jolie en plus. Très, voilà. Et là où j'ai versé ma petite larme, c'est qu'il a dit genre, c'est important que des jeunes lisent vos livres et tout. Bon, voilà. Je ne vais pas non plus me jeter des fleurs tout le temps, mais il racontait ça. Et puis il finit par... Par contre, ça serait quand même bien, peut-être un jour, si vous pouviez, genre, parler de nous. Il dit, parlez de nous, on nous oublie. Mais on est vivant, et tant qu'on est vivant, on a envie, en fait. On a envie de faire l'amour, on a envie de ressentir nos corps, même s'ils sont touridés, on a envie de... Bah voilà, s'il n'y a plus d'héros, s'il n'y a plus de vie, Et on ne parle jamais de nous et de la façon dont, dont on peut encore faire l'amour. Et c'est ce qui maintient vie. C'est pas France 3, quoi, c'est 15h, quoi, c'est ça. Et je lis ça, je dis, genre, ouais, après je me dis, je vais écrire un livre sur les sexualités des personnes âgées. Bon, je ne l'ai toujours pas fait. mais voilà, c'est. Je trouve que c'est.
C'est beau.
Ouais, non, mais voilà, ça m'avait ému, j'avais répondu, tout ça, il m'a pas répondu, et après je me dis, ça se trouve, il est mort. Mais. Non, peut-être qu'il a changé, je sais pas. Mais il a peut-être changé de maison de retraite, non, c'est absurde. Non, mais bref, mais c'est. Je pense que ce qui est c'est un sujet, moi, je continuerai, j'espère, à écrire là-dessus, parce que c'est un sujet de transmission. Là, entre ce monsieur de 87 ans et moi, mais c'est un sujet de transmission quand on en parle aux ados. C'est un sujet de transmission quand on en parle à nos parents, même si c'est compliqué, ou quand ils nous en parlent, eux, de leur sexualité. Des fois, on est là, on ne veut pas entendre. Mais voilà, c'est.
Mais c'est vrai que nous, ce que les gens nous disent surtout, c'est à quel point on en parle de manière simple. Et à quel point ça fait du bien d'en entendre parler comme ça, de manière simple, tu vois, sans en faire un truc en colère ou morte de rire. Non, simplement. Mmh. Et. Bah, c'est ça qu'on voulait faire.
Oui, c'est ça qu'on voulait faire, parce qu'en fait, on se disait, mais si nous, on n'a pas eu de mots, c'est aussi qu'il n'y a pas tant d'espace dans la société. Si tu n'es pas dans une famille où le sujet est libre et justement abordé de manière très naturelle, bah, en fait, où est-ce qu'on peut t'en parler? On ne sait pas trop, en vérité. Où est-ce qu'on peut t'en parler sans peur, sans le filtre exclusif de la prévention, de tout ça? Où est-ce qu'on peut en parler avec joie? Où est-ce qu'on peut en parler, voilà, de manière très simple et... Donc on a quand même voulu contribuer à faire exister un espace comme ça. Et c'est vrai que les gens souvent le reçoivent, ça. Mais tu vois, juste avant que tu parles de cette lettre du vieux monsieur, j'allais dire, mais en fait, ouais, que ça soit des jeunes personnes qui nous remercient, des hommes, des couples, en fait c'est toujours beau. Enfin, c'est tellement universel, ça passe, quoi. Et c'est beau avec tout le monde.
Et maintenant c'est à votre tour.
Il est quelle heure ?
Je sais que la première question coûte, mais peut-être profiter de nos trois invités.
Ça s'appelle le pouvoir des mots.
Une petite question, vous parliez de retour justement du public. Vous avez beaucoup parlé du retour que font les femmes qui viennent assister au spectacle, mais est-ce que vous avez des exemples ou des anecdotes de retour d'hommes qui sont venus assister au spectacle, même s'ils sont moins nombreux que les femmes?
Oui, alors,
comment c'est reçu ce type de spectacle?
Ce qu'on a oublié de dire, c'est que ce spectacle, on a vraiment voulu le faire aussi pour les hommes, que c'était très important pour nous, qu'on n'avait pas envie d'être en colère ou qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit ensemble dans ce partage et dans cette transmission. Donc il n'y a pas d'hommes sur scène, mais il y a des paroles d'hommes dans le spectacle. Moi, j'ai reçu un message sur Instagram d'un homme qui était complètement désemparé, qui était venu avec sa femme, et il ne me draguait pas du tout, hein. C'est un peu chelou de dire ça là, mais il était très mal, il ne savait pas comment faire pour avoir une sexualité bien avec sa femme, et ils sont venus au spectacle, et j'ai senti un grand besoin de parler. Il ne savait pas, bon, finalement je ne suis pas devenue sa thérapeute, hein, mais en tout cas il était très touché, quoi, que ce spectacle existe, et il était hyper heureux d'avoir pu le voir.
Ouais, et je pense que c'est une bonne question, parce que ouais, le spectacle est assez équilibré, vraiment équilibré là-dessus, même peut-être plus que le livre, qui est peut-être un tout petit peu plus sur quand même la sexualité féminine. Je parlais tout à l'heure du mouvement qu'il y avait récemment. Récemment, c'est vraiment 4-5 ans, enfin... On n'a pas attendu 2010 pour parler de sexualité, pas du tout. Mais là, il se passe dans la nouvelle génération vraiment une prise de parole collective et plutôt positive, en fait, sur la sexualité féminine. Il y a eu MeToo, évidemment, il y a eu tout ça qui ont pu parler. On a pu parler un peu plus librement, en fait, des agressions sexuelles et de tout ça. Mais même sur le côté de la médaille, la sexualité non agressive et consentante, il y a des sites internet, il y a des livres vous allez en librairie, il y a beaucoup de choses en ce moment là-dessus. Il y a des podcasts, il y a des émissions radio, il y a des documentaires sur le plaisir féminin. Les hommes, il n'y a rien. Et j'ai envie de dire, genre, messieurs, qu'est-ce que vous foutez ? Parce qu'en fait, il est temps aussi que les hommes s'interrogent sur c'est quoi les stéréotypes sur la sexualité masculine ? C'est quoi la pression de la performance dans la sexualité masculine ?
Bah, du
cette
coup,
pression
on en
autour
parle,
de l'érection et de la
on
mendaison.
En parle dans le spectacle, ouais. Mais c'est vrai que aussi, ce que je voulais dire, c'est que parfois, il y a des hommes dans la salle et des femmes leur disent « Ouah, t'es courageux de venir !» Mais parce qu'ils n'ont pas encore vu le spectacle, en fait, ils pensent que on va être un peu, qu'on va être un petit peu en colère ou quoi. Et du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que je crois que peut-être ça peut faire peur aux hommes aussi.
Mais parce que en fait, on leur a pas appris non plus depuis plus petit que c'était ok d'exprimer des sentiments, d'exprimer de l'intime, que ça allait pas les déviriliser s'ils expliquaient qu'ils étaient parfois sensibles ou défaillants entre guillemets ou tout ça. Et quelque part, je pense qu'aujourd'hui, je parle de la France et même certaines classes sociales quand même, mais il y a un espace pour les femmes pour parler de ça. Il y a même des espaces où on montre les différentes façons d'exprimer sa féminité. En gros, il y a une liberté plus ou moins, voilà, encore une fois, c'est tout est relatif, mais où on peut être femme de plein de façons différentes. Les hommes, non. Enfin, voilà, il y a quand même un modèle assez rigide de masculinité, de virilité. Il y a encore énormément de problèmes aussi sur la question du genre, sur la question de la diversité sexuelle, beaucoup plus, je pense, d'un point de vue masculin que d'un point de vue féminin. Bon, pour résumer, je pense qu'en gros, c'est un homme va énormément avoir peur, enfin, va craindre de se faire traiter de PD, etc., s'il raconte telle ou telle pratique ou tel fantasme. Une femme, peut-être un petit peu moins, enfin, de se faire traiter lesbienne. Enfin, voilà, il y a un gros boulot que doivent faire les hommes pour se réapproprier le discours sur la sexualité, casser les stéréotypes, réinventer un nouveau discours, s'interroger. En se disant, voilà, quelles sont les virilités qu'on peut avoir tout au long de notre vie ? Quel est le parcours sexuel ? Est-ce qu'on a la même sexualité à 18 ans que 70 ans ? Non, pas du tout. Est-ce qu'on est obligé de prendre le Viagra ou pas ? Je ne sais pas, il faut demander au monsieur qui m'a écrit. comment je vais vieillir avec ce corps-là aussi ? Comment je vais être désirable avec ce corps vieillissant ? Parce que c'est une vraie question. Voilà, il y a peu d'espace. Si un jeune garçon de 18 ans, par exemple, se pose des questions sur son corps et sa sexualité aujourd'hui, à qui il s'adresse ? Il n'y a personne. Il va regarder des films porno comme tout le monde et il va se dire genre, ah, super. La mienne, elle ne fait pas 30 cm. Quoi.
Ça aussi,
j'ai envie
on
de dire
en
heureusement.
Parle.
Mais voilà, en fait, je me dis, on a fait le boulot, quoi. Enfin, les meufs, on a fait le boulot de ces dernières années de réfléchir, enfin de déconstruire. Bon, le féminisme a fait ça et pas seulement, mais en grande partie, d'essayer de se libérer notre carcan, d'enlever le corset en fait. Les hommes, ils n'avaient pas de corset au 19e siècle, mais les chevaliers avaient des trucs en fer là, enfin des espèces des armures. C'est à eux de péter leur armure quoi, et de se libérer en fait de ce carcan là aussi. Et il y a vachement de boulot.
Mais c'est vrai que nous, quand il y a des hommes dans la salle, en tout cas, on est ravis.
Ouais, mais quand je dis que ça a eu de le faire, c'est pas aux femmes non plus de...
Tu veux dire d'emmener...
En fait, eux-mêmes doivent pouvoir s'interroger quelque part aussi, un peu entre hommes. Ils vont se faire des réunions non mixtes.
On a quand même une limite.
Et parler de leur bite.
Non, mais en tant que femme, on a quand même une limite. Enfin, moi, je me sens pas... Enfin, je peux pas parler de ce que ressent
un
homme.
Oui, le ressenti... À un moment donné, je me suis moi posé la question avec mon éditeur sur Fast Explorerman, mais vraiment... Enfin, la version, mais vraiment ultra masculine. Enfin, parler... Et je suis là, genre, c'est compliqué. À un moment donné, je parle de ma première branlette. Là, c'est facile, mais ma première branlette masculine, enfin, qu'est-ce qui s'est passé et tout ? Enfin, non, genre, je pourrais pas le raconter. Alors, je pourrais interroger énormément d'hommes, mais voilà, je pense qu'il y a un vrai... c'est la prochaine étape en fait aussi de ce mouvement de libération sur la sexualité, c'est que elle va venir aussi des garçons et il est temps parce que faut que ça vienne des deux et puis ça leur rendra un grand service aussi d'avoir des espaces de parole, des espaces de... Dans le féminisme, on parle d'espaces de sororité, mais ils ont aussi besoin d'espaces de fraternité, ils ont besoin d'espaces où ils sont pas en compétition, Ils ont besoin d'espaces où ils peuvent enlever l'armure, enlever le masque du mec qui gère tout et qui assure sur tout. Et puis voilà, pouvoir... Et il n'y en a pas encore pour l'instant, mais c'est à créer.
On va prendre encore 5 minutes parce qu'ensuite Claire et Lisa vont devoir filer pour aller jouer.
Merci, bonsoir. Et merci de votre prestation et votre charmante présence. Je suis content de vous voir ici. Et comme vous l'avez annoncé dès le départ, vous n'avez pas du tout une tronche de travailleuse du sexe.
Pour... Mais on n'est pas travailleuse du sexe.
Non, justement, oui, c'est ça le contraste.
C'est pas marqué sur le front.
Absolument, mais c'est ça le beau contraste. J'utilise une expression ovidienne, quoique cette personne-là ne soit pas, à mon avis, n'est pas une référence en la matière. Présentation est très, très alléchante, très palpitante même. Ça donne envie d'aller voir le spectacle. Et donc, a priori, on peut dire, si vous me permettez, que vous avez réussi votre, comment dire, c'est une opération de com. Voilà. Alors, mais j'ai une petite question, non pas une question, mais une précision d'ordre anatomique au sujet du fameux G-spot. Vous l'avez situé dans la nuque, à moins que ça ne soit le centre nerveux du système, mais j'ai toujours entendu dire qu'il est déjà en bas, quoique on peut l'atteindre, qu'il est accessible et par le devant et par le derrière, là, et que certaines prétendent que c'est plus facile par le derrière que par le devant. Mais alors là, on revient un peu au cunnilingus. Alors, vous voulez m'expliquer un peu cette histoire de point G, ça m'intrigue.
Non, en fait, c'était... Lisa était déguisée en vulve. Et du coup, quand on disait que c'était derrière, c'était pas son cou, hein. Mais c'est juste que sa tête, c'était son clitoris. Donc
ouais,
c'était...
C'est pas évident à se représenter.
À la base du gland du clitoris, à l'intérieur.
Voilà. Le point G ? Alors, en quelques mots rapidement, parce que voilà, mais donc c'est une zone qui est donc, ça correspond au clitoris interne, d'accord ? Et c'est situé, on va dire, à deux phalanges, 4-5 cm de l'entrée du vagin, face antérieure. Donc, comme ça, le vagin est comme ça, face antérieure à 4-5 cm de l'entrée du vagin. Encore une fois, ce n'est pas un point genre. Orgasme, ça serait, hein. Mais c'est une zone un petit peu plus innervée en fait que l'autre, forcément, parce que le clitoris, voilà, et qui peut être sollicité par des doigts, des sextoys, voilà. Pourquoi pas un pénis, mais c'est pas le plus adapté. et donc voilà, et puis juste. Je pense qu'on va conclure. Et pour la question, genre on n'a pas la tête pour, personne n'a de tête pour. Moi, je connais des auteurs de littérature pornographique qu'on imaginerait experts comptables à la défense, alors qu'en fait ils écrivent des horreurs, hein, et des magnifiques horreurs pornographiques. Et voilà, à l'inverse des anciennes actrices porno qui écrivent des textes, des thèses aujourd'hui. Donc voilà, on n'a pas la gueule de l'emploi, heureusement. Heureusement, ça crée des surprises, du coup. Et voilà, je pense que... Merci beaucoup, Caroline.
Bah oui,
merci à tout le monde.
Un dernier... Bah là, on va libérer donc, Claire Assali, Lisa Visnia et Camille Emmanuel, puisque Claire et Lisa vont foncer à la nouvelle scène pour jouer. Donc merci à toutes les trois pour cette... vraiment
merci
formidable
beaucoup.
Masterclass,
merci
à rencontre.
Merci Caroline.
Merci. Et puis c'est vrai qu'il me venait tout de suite, voilà, le plaisir de vous entendre parler du sexe avec joie. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir ce soir, un sexe parlé au jeu. Et c'est vrai que pour reprendre une question, ce serait bien que des hommes parlent avec un jeu aussi de ces questions-là. Moi, je vous donne rendez-vous le 24 avril pour la seconde date qui sera avec Audrey Vernon, interrogée par Rosanna Di Vincenzo. Donc Audrey Vernon qui travaille, elle, sur des questions économiques, toujours dans cette histoire de pouvoir des mots et de prendre la parole dans un but politique. Merci à la Nouvelle Scène, merci à nos techniciens qui ont tout filmé ce soir. Donc vous pourrez retrouver la soirée en podcast et puis très bonne soirée. Merci.